France Musique.
Bonne fin de soirée à vous, Lionel Esparza, et à demain dans votre hôtel préféré.
Anne Montaron, à l'improviste, France Musique.
Bienvenue dans À l'improviste, une émission qui s'improvise justement autour des musiques qui ont pour point de jaillissement l'improvisation. L'improvisation est souvent à l'honneur dans la programmation du festival CRAC, le festival des musiques affranchies, des musiques entre les mailles, autrement dit des musiques inclassables. Le festival CRAC a lieu tous les ans au cœur de Paris, en l'église Saint-Méry, à l'initiative de l'association Babel. La 5e édition a eu lieu le mois dernier, alors nous allons traverser ce soir les temps fort de cette édition, une traversée forcément un peu rapide par rapport au pouls, à la pulsation naturelle de cette édition puisqu'elle s'est déroulée sur 3 soirées. Cette traversée va donc avoir la forme du kaléidoscope ou de la mosaïque, gare au vertige. C'est une cornemuse écossaise qui a ouvert le bal le 22 septembre dernier, la cornemuse de Erwan Keravec. Et c'est en soi un choix symbolique puisque cet instrument traditionnel est emmené par le sonneur dans d'autres univers que celui de ses origines. Or, c'était l'un des fils rouges de cette 5e édition du festival CRAC, le mariage heureux, en tout cas je le crois, de la musique traditionnelle et de l'exploration contemporaine. Le festival CRAC avait aussi ciblé d'autres objectifs, par exemple faire entendre le travail de 2 collectifs, l'ONSEM, l'orchestre parisien fondé par Frédéric Bandy, et le collectif La Novia, actif en Haute-Loire. Et j'oublie un autre fil rouge, mais celui-là, faute de temps, sera négligé par notre mosaïque sonore, un accent mis sur les arts numériques et la bidouille électronique. Les têtes pensantes du Festival CRAC, ce sont 2 musiciens, le pianiste Frédéric Blondy et le trompettiste Louis Laurin.
Avant le festival, on donne des rendez-vous réguliers avec Frédéric pour envisager des possibilités de programmation. Et puis, ouais, et puis on travaille depuis l'année dernière. On a fait la programmation ensemble l'année dernière. On l'a fait cette année et on la fera sans doute l'année prochaine, Inch'Allah.
Chaque année, on cherche aussi à clôturer le festival avec une soirée qui serait éventuellement un peu plus festive, ou en tout cas d'avoir une soirée dans le cadre du festival qui puisse permettre aux gens de danser aussi et de festoyer.
Aux énergies de Frédéric Blondy et Louis Laurin, il faut ajouter celles d'Arnaud Rivière, musicien de la scène électronique, mais aussi directeur artistique du festival Sonic Protest et qui a été de mèche avec l'association Babel sur la dernière soirée de cette édition.
On est accueillis, nous, ici, avec le festival Sonic Protest de manière très régulière et c'est devenu un trait d'identité très fort de Sonic Protest d'organiser ces 2 soirées de chaque édition à Saint-Méry. C'est vraiment un moment attendu dans la programmation de Sonic Protest. C'est qui il y a cette année à Saint-Méry dans Sonic Protest. Nous, on le voit bien et ça provoque beaucoup d'intérêt de la part du public parce que c'est toujours un endroit assez étonnant pour entendre des propositions radicales.
La cornemuse a donc donné le la de cette édition Crac 2016. Cette cornemuse, déjà entendue à plusieurs reprises dans À l'improviste, c'est celle d'un musicien obstiné et généreux à la fois, qui a beaucoup joué la musique traditionnelle bretonne avant de s'aventurer vers l'improvisation, vers l'exploration d'autres formes musicales pour son instrument. Et pour cela, il s'est tourné vers des compositeurs, des Cavana, des Rossé, Benjamin de la Fuente, Zad Moultaka, Philippe Leroux ou encore Mitterer. Et il a ainsi suscité un nouveau répertoire pour son instrument. Le festival Crac a donné une carte blanche à deux faces à Erwan Keravec en lui confiant l'animation d'un atelier d'improvisation et en l'accueillant pour un solo le 22 septembre. Je voulais juste que tu nous donnes ton sentiment sur cette acoustique particulière.
C'est très surprenant parce que dans là où est disposée la scène, donc c'est-à-dire dans la nef, il y a une réverb qui n'est pas si longue que ça, alors qu'on en sort légèrement et il y en a une beaucoup plus longue. Donc c'est un bon mix en fait entre une salle de concert et une église avec une réverb raisonnable.
Oui.
Donc on n'est pas totalement perdu dans le son et en même temps il est très gratifiant parce que cette réverb est évidemment très très belle. Oui. Mais on n'est pas noyé dedans.
Je voulais savoir comment tu vois l'évolution de ton solo. Ça fait déjà quelques années que tu creuses dans cette direction, en solitaire. Et tu as amené des éléments nouveaux de par tes collaborations avec des compositeurs. Donc tu ne fais pas qu'improviser à la cornemuse. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce travail en solitaire ?
Ce qui a beaucoup changé avec toutes les pièces que j'ai pu faire depuis, c'est que ça m'a amené à m'interroger sur la forme à donner à la musique. Parce que du coup, le fil est plus complexe, les ruptures aussi le sont plus. Il y a aussi beaucoup plus de passages entre des silences et des sons très très forts que moi, au départ, je pratiquais pas tant que ça. Donc là, maintenant, tout ça est beaucoup plus présent. Ça s'est complexifié, en fait.
Tu as l'impression de quelque chose de plus construit ou tu restes vraiment dans une composition spontanée ou instantanée ?
Alors, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que le chemin que je prends, qui est lui est prescrit, est plus complexe qu'avant. Maintenant, je reste encore surpris dans des choses qui peuvent m'arriver à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout écrit, dans le sens où je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans chaque pièce. Donc du coup, il y a des choses qui me surprennent moi-même, des moments aussi où je traîne sur des endroits parce que j'y découvre quelque chose que j'avais pas vu. Donc je suis moi-même toujours surpris par ça, ouais.
L'acoustique de l'église Saint-Merry au cœur de Paris et la cornemuse d'Erwan Keravec, un musicien chercheur qui illustre bien l'esprit du festival Crac et cette idée que nous tous, publics comme musiciens, nous sommes capables, et souvent très désireux d'ailleurs, d'ouvrir nos oreilles à des musiques pour lesquelles le système de la musique, le système commercial, n'a pas encore trouvé d'étiquette ou de catégorie. Nous sommes à Saint-Merry et même si cette église est ouverte aux concerts, elle continue à être un lieu de culte. Aux antipodes du solo du sonneur Erwan Keravec, le festival Crac a joué le jeu du collectif. Depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 5 ans, l'ONCEM, l'Orchestre National de Création et d'Improvisation Musicale fondé par le pianiste Frédéric Blondy, a ses entrées au festival Crac. Le festival est l'occasion pour cet ensemble d'une trentaine de musiciens de commander à des compositeurs une pièce pensée sur mesure et qui prenne en compte la spécificité justement de cet ensemble d'improvisateurs, c'est-à-dire l'engagement créatif, personnel, de chacun des musiciens qui le constituent. Pour cette 5e édition, le festival a sollicité Jérôme Neutinger, actif sur la scène électronique comme musicien improvisateur et comme compositeur de studio. De cette collaboration est née une pièce nouvelle baptisée « Machines orphelines ».
Alors déjà pour préciser, moi c'est vraiment une pratique qui n'est pas ma pratique régulière, voire quotidienne. Donc c'est la deuxième fois de ma vie que cette expérience m'arrive. Moi je suis plutôt compositeur de musique concrète, donc je travaille seul en studio avec des sons enregistrés ou et principalement improvisateur sur scène. Et il y a eu une fois, il y a déjà 5 ans, un ensemble de balles qui s'appelle Phoenix qui m'avait commandé une pièce. Où j'avais longtemps réfléchi avant de dire oui, et j'ai travaillé à partir de sons enregistrés, où j'ai demandé aux musiciens d'imiter les sons, et après j'ai fait une répartition temporelle par rapport à chaque musicien. Et puis j'ai eu le temps après, en travaillant avec eux, de changer et d'adapter les choses par rapport à leur interprétation. Et quand l'ONCEM m'a demandé de faire cette pièce, les machines orphelines, en fait c'était tardivement, c'était début juin. Donc c'était juin, septembre, c'est quand même très peu, 3 mois, quoi. J'avais très peu de temps pour faire ça, et j'ai voulu, peut-être c'était une erreur, mais j'ai voulu adapter le même système que j'avais fait avec Phoenix. Donc j'ai fait, à partir de boucles de son, j'ai demandé aux musiciens de les apprendre, de les imiter, et j'ai fait une répartition temporelle. Et après, j'ai fait des groupes, parce que là, il y a 20 personnes. Sauf que, et je dis absolument pas ça de manière négative, mais... ce qui s'était passé avec Phoenix, c'est-à-dire que le premier jour, tout le monde avait déjà appris les boucles et je suis arrivé et j'ai entendu ma composition et j'ai pu changer les choses le lendemain. Là, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que le premier jour, en fait, on a dû faire un travail d'appropriation des sons. Et en fait, mais c'est vraiment intéressant aussi, ce soir, c'est la première fois que j'entends d'une part tous les musiciens étaient présents, et que j'entends enfin, entre guillemets, ma musique. Donc pour moi, le travail commence maintenant. Demain, il faudrait que je... Maintenant, je vois les imperfections, il y en a beaucoup. Pas de leur part, mais de ma part, et il faudrait que je change les choses.
Certains qui connaissent un peu ton univers ont ressenti dans l'écriture qui s'est développée là une influence de l'écriture électroacoustique.
Mais alors là, c'est tout à fait juste et ça fait plaisir qu'on l'ait ressenti parce que pour moi, donc tous les sons viennent de boucles que j'ai pu faire avec mon magnétophone à bande de stéréo Revox. Je garde toutes mes boucles. Toutes mes boucles d'improvisation de fin de concert, je le garde, j'en ai des centaines. Et en fait, je pioche dedans. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec d'autres musiciens. Donc, en fait, j'ai toujours des sortes de traces fantomatiques d'instruments retravaillés, de batteries, de trompettes, de pianos, etc., etc. Et il y en a beaucoup que j'ai utilisées là, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont, je pense, impossibles à faire instrumentalement, oui. Volontairement. Et donc, il y a quelque chose qui est complètement un peu décalé. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, par exemple, il y a un moment où il y a toute une partie avec... des boucles que j'appelle batterie floue, piano floue, trompette floue. Pour moi, c'est vraiment l'idée, on est un peu sur des sams mouvants et quelque chose qui est complètement instable et avec des sortes presque de, quelquefois de lignes mélodiques qui sont complètement abracadabrantes, on ne sait pas ce que ça vient faire là, et que j'aurais été complètement incapable de demander volontairement, si ce n'est grâce au hasard de ces bandes que j'ai retrouvées. Donc il y a effectivement vraiment une écriture électroacoustique à ce niveau-là, c'est sûr.
Comment est-ce que tu as pensé justement le rapport entre les deux musiciens qui sont derrière, l'un derrière un dispositif très particulier, l'autre derrière un ordinateur et l'ensemble de l'orchestre? J'ai eu le sentiment que justement les sons et de Diemo et de Arnaud étaient des éléments parmi d'autres dans la masse orchestrale pendant un bon bout de temps et puis que tout d'un coup... toute cette donnée-là, électroacoustique, a pris énormément d'importance, a envahi l'orchestre.
Alors, pour Arnaud, il y avait des moments où, parce que c'est quelque chose qui lui correspond assez bien dans sa manière d'aborder la matière sonore, c'est, moi je lui ai donné une sorte de liberté avec certains types de sons, je lui ai donné l'image du spam. Voilà, tu viens spammer l'orchestre. Et en ce qui concerne Diemo, pour moi, c'était aussi de travailler sur une sorte de réminiscence, de mémoire de ce qu'on avait entendu. Il pouvait retraiter le piano ou un des deux violoncelles et de travailler comme ça avec des choses qu'on avait déjà entendues, de les transformer. Et il y a des moments où, pour moi, ils prennent pas le dessus, mais ils prennent une part isolée par rapport aux autres avant que tout revienne collectif. C'est vraiment l'idée aussi que tous ces musiciens participent à la totalité, font la musique, mais c'est qu'il y a plein de moments où je veux aussi rappeler que tous sont une sorte de mécanisme individuel et qu'il y a des moments où chacun prend son propre rythme et décide de partir à gauche alors que l'autre part à droite, etc. etc. Et donc il y a un moment où la machine elle marche plus très bien et donc il y a vraiment quelque chose qui va vers le déraillement et ça se retrouve. Et donc c'était vraiment ça quelque chose qui m'intéressait avec en tête des images de musique de constructiviste russe ou de futuriste italien, vraiment liées à la machinerie qui m'intéressait vraiment. Thank you.
Les micros d'À l'improviste se sont promenés dans les murs de l'église Saint-Merry le mois dernier pour prendre la température du festival Crac. La deuxième soirée de cette édition se refermait sur les machines orphelines de Jérôme Neutinger, jouées par Loncem, une création qui a donné toute la mesure de l'organisme vivant qu'est cet orchestre. L'église Saint-Merry, les soirs du festival Crac, a le don des métamorphoses et sait se faire aussi convivial que n'importe quel théâtre. Dans un coin plutôt cosy, jonché de coussins, éclairé par des guirlandes lumineuses, les enfants des visiteurs se retrouvent. C'est ici aussi, entre deux piliers, que se tient le stand de disques et de livres du festival Sonic Protest, partenaire du festival Crac, un stand tenu par Franck de Kango. Sur la table, des objets qui attirent l'œil par leur graphisme et leur matière recherchée. Thomas a apporté aussi quelques disques du label Bicoq.
Alors, c'est pas vraiment mon stand, on le partage du coup. On a une petite partie comme ça consacrée Sonic Protest, des compilations qu'ils ont fait. Et il y a un petit peu du label Bicoq, avec un petit peu de distro, des échanges qu'on a fait avec d'autres labels, donc tout n'est pas présenté de Bicoq. Il y a aussi, surtout d'ailleurs, tous les disques et les vinyles de la Novia. Et le label du copain dont je me rappelle plus le nom, voilà. Et voilà. Tout est un peu mélangé ensemble, quoi.
C'est assez intéressant parce que sur les soirées organisées par Sonic Protest, il y a toujours une part importante qui est donnée à la production indépendante. Donc le label Bicoq là est vraiment un exemple de ce qui peut être représenté sur ces soirées-là. Et après, donc voilà, les musiciens vendent leurs propres disques, les labels qui sortent les disques de ces musiciens amènent des disques. Sonic Protest amène toujours ses productions. Et voilà. Là, on a un exemple parfait de ce qui peut intéresser les gens sur un stand, un objet incroyable. Un livre.
Tu peux nous le montrer ?
Je pense que c'est... Explique un peu ce que c'est que...
Ouais, je veux bien qu'on l'ouvre et qu'on l'explique. Alors,
celui-ci, c'est une sorte de fanzine.
Ouais.
Donc ça a été sérigraphié. C'est trois artistes donc, qui ont proposé trois images avec trois passages de couleurs. Donc tout est sérigraphié. Et ensuite, en fait, à l'intérieur des pages, le KGB, puisque c'est le KGB qui a imprimé et collé après les pages ensemble, enfin c'est vraiment un travail très artisanal, à l'intérieur des pages, on a glissé les CD, et donc les CD, c'est trois solos, un solo de Maxime Petit à la basse, un solo de Jean-Luc Guillonnet aux orgues électriques, et un solo de Yann Gourdon, justement, qui est dans la Novia, à la Vielle à Roux. Et voilà, mais c'était l'occasion aussi de faire un bel objet, un livre-disque, voilà.
Et tu le vends combien ? Vous le vendez combien, cet objet-là ?
On le vend 30 euros. Après, c'est une édition limitée. Enfin, il n'y en a eu que 120 exemplaires. Mais on le vend 30 euros pour que... Enfin, juste, on rembourse le prix du... On ne fait pas spécialement de marge, mais au moins pour que les gens puissent l'acheter. Enfin,
Franck, deux mots sur Sonic Protest. Donc, tu travailles main dans la main avec Arnaud.
Ouais,
Quelle est ta fonction exacte ?
Moi, je suis cofondateur avec Arnaud, programmateur. On a monté ça en 2003 ensemble. Et après, moi, je développe aussi tout ce qui est action culturelle, en fait, tous les projets d'action culturelle, donc, dont certains objets sont représentés ce soir. Par exemple, ça, c'est une cassette avec un fanzine. C'est le résultat d'un travail fait par Andy Bolus avec les lycéens du lycée autogéré de Paris. Il y a un travail qu'on fait avec les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, des jeunes adultes autistes, avec qui on fait une émission de radio sur Radio Libertaire et un groupe de musique improvisé. Voilà. Et puis, voilà. Donc, moi, je suis anciennement disquaire. J'étais disquaire pendant 17 ans à Paris, à Bastille, une boutique qui s'appelait Bimbo Tower. Donc, je suis, voilà.
D'accord.
Moi, tout ce qui est auto-édition, livre-objet, je suis très attaché à ces supports-là. Arnaud aussi. Donc, on se retrouve vraiment sur ce principe-là. Donc, c'est pour ça qu'on attache vraiment une importance au stand, à la diffusion, Voilà. Il faut que ça circule. C'est important que les artistes soient en contact directement avec le public. Et, voilà.
Sonic Protest est là, c'est que la soirée de clôture du festival Crack s'est faite en collaboration justement avec Sonic Protest et ses deux programmateurs, Franck de Kango et Arnaud Rivière. Ils ont eu l'idée de proposer à l'association Babel une nuit blanche baptisée Nuit de Noces, orchestrée par les différents groupes du collectif La Novia, basé en Haute-Loire, autrement dit un territoire relativement large puisqu'il réunit des musiciens d'Auvergne, de Rhône-Alpes, du Béarn, du Limousin, des Cévennes et de Franche-Comté. La cinquième édition du festival Crack s'est donc conclue sur une nuit de noces aux accents d'oc, en plein cœur de Paris, dans le cadre unique de l'église Saint-Merry, reconvertie pour l'occasion en dance floor, en mode trad. Frédéric, le parquet, il a été aménagé spécifiquement ou il est là tout le temps?
En fait, c'est donc sous l'ancien curé, sous Jacques Mérienne, que est apparu l'idée de construire ce parquet, qui est avant tout un lieu utilisé pour la célébration. Jusqu'à Saint-Méry, la messe est mobile, elle commence sur ce parquet central, puis va se poursuivre dans le chœur. Et elle sert aussi beaucoup, donc je pense que c'était une double idée à la fois pour la célébration et pour les concerts qu'il y a tous les samedis, tous les dimanches, donc d'une autre association qui s'appelle l'Accueil Musical, qui existe à Saint-Méry depuis 40 ans. Et qui, voilà, donc le parquet est effectivement extrêmement utilisé. C'est avant tout la scène, bien plus que
un parquet de danse.
C'est un parquet de danse. Ouais.
C'est sans doute peut-être même la première fois que ça va être utilisé comme un parquet de danse.
Arnaud Rivière connaît très bien l'esprit de la Novia. Il n'en est pas à sa première collaboration avec ces jeunes musiciens.
On a commencé par Invité France en 2008 et puis à découvrir tous ces projets qui mêlent effectivement un héritage très net de musique traditionnelle du Massif Central, hein, avec des traits vers la modernité et puis de différentes manières. Quoi. Il n'y avait pas une formule comme ça qui mettrait un pied dans le passé, un pied dans le futur. Il y a vraiment plusieurs... sur cette idée-là, ça tourne autour. L'idée d'instruments anciens, de musique contemporaine, traîne pas mal. Il joue vraiment dans les festivals de musique trad. Il joue vraiment dans des différents contextes où à chaque fois les dominantes de leur musique peuvent s'exprimer. Et puis il y avait cet événement effectivement qui a eu lieu il y a, je crois, à peu près 3 ou 4 ans, les noces en Haute-Loire, chez eux, dans une ferme, pendant un week-end entier, où il y avait aussi des cours de danse traditionnelle, des choses comme ça. Et puis ça sent pas le renfermer, ça sent pas le passé, c'est pas du tout un coup d'œil dans le rétroviseur, quoi. Il y a vraiment effectivement une manière de faire ça comme aujourd'hui. Il y a une vraie personnalité d'ensemble qui n'a pas d'équivalent en France. Voire même, je crois, pas en Europe. Nous, on a rencontré en 2008, donc ça fait 7-8 ans maintenant. Il s'est passé des tonnes de choses pour eux depuis, et c'est vraiment super, quoi, de voir à quel point ça se développe. Et ça fait donc plusieurs années qu'on a comme projet de donner un écho à ces noces qui avaient eu lieu en Haute-Loire. On a pris rendez-vous pour septembre 16, en cherchant un lieu qui, un, pourrait nous accueillir toute la nuit, et deux, où il y aurait un parquet pour pouvoir danser. Et puis, on s'est dit, mais évidemment, qu'on va d'abord redemander aux amis de Saint-Méry si on peut venir. Et puis, ça tombait bien. C'était aussi un trait d'union entre deux festivals.
De la Novia, invité par le festival Crack et Sonic Protest. La Novia, ce sont une dizaine de musiciens très inventifs et investis. À l'improviste a rencontré pour vous deux d'entre eux, Yann Gourdon, joueur de vielle à roue, et Jacques Puech, chanteur et joueur de cabrette. À leur côté, Elodie, qui fait beaucoup pour ce collectif.
Alors moi, je m'appelle Elodie Ortega, je suis chargée de production pour le collectif. Je fais un peu tout, je fais du graphisme et je m'occupe des groupes. Le collectif, en fait, ça nous a permis de nous poser des questions sur esthétique, en fait, sur tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en termes de graphisme, qu'est-ce qu'on fait en termes d'objets, pourquoi on fait du vinyle, comment on autoproduit ça. Et donc, rapidement aussi, cette question des noces. de se dire, bah, on est un collectif, donc il y a des groupes qui sont arrivés avec des gens qui ne se connaissaient pas forcément, et de se dire, il est important que tout le monde s'entende. Et la première nuit de noces qu'on a montée, c'était en Haute-Loire, à la ferme du Marin. Du coup, on a réuni tous les musiciens du collectif, et on s'est aussi posé la question de proposer des stages, qu'est-ce que c'est que les stages, parce qu'en fait, il y a des musiciens qui ont aussi des compétences pédagogiques et des questionnements par rapport à comment on passe la musique en fait à d'autres gens.
Alors cette nuit de noces, si j'ai bien compris, c'est un rituel, c'est une forme du collectif.
C'est la troisième fois qu'on fera des noces, parce qu'on a eu une première soirée de nuit de noces donc en Haute-Loire. Et après, au début, c'est nous qui produisons ça, donc voilà. Ouais. Et on a été contacté par Raphaël Bouvier pour faire une semaine de noces à Marseille. Donc au mois de janvier dernier, on a fait une semaine comme ça à Marseille, avec plein de petits lieux marseillais. Et en fait, Arnaud du Sonic Protest avait l'envie aussi de faire ça, de faire cette soirée-là. Et du coup, avec Crack Festival, ils sont organisés pour nous faire venir effectivement une nuit entière. Donc c'est la deuxième nuit et la troisième noce.
Le trio qui a fondé le collectif, on faisait du bal trad, mais dans une dimension très électrique. On avait fait le choix d'amplifier les instruments, de jouer sur ampli et d'électrifier les instruments, donc la vielle, la cornemuse, et bon, pour la guitare c'était plus naturel, mais il y avait une envie d'affirmer quelque chose de l'ordre du sonore qui en fait est déjà omniprésent dans les instruments traditionnels. C'est-à-dire que juste ce qu'on a amplifié, c'est quelque chose qui apparaît déjà dans les instruments traditionnels, même en acoustique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans d'autres projets qui arrivent après Taude, on a travaillé vraiment en acoustique, mais avec toujours cette même identité sonore. Et très vite aussi, on s'est rendu compte que cette recherche dans le son, c'était le même type d'approche que moi j'avais par ailleurs dans la musique expérimentale et avec d'autres musiciens que je rencontrais aussi. Et ce qui fait qu'assez vite, on a le collectif, c'est pas uniquement resté concentré sur la musique traditionnelle, mais a aussi s'est ouvert vers des champs plus expérimentaux. Et ce que Yvan et donc moi-même et nous tous on appelle les musiques de ton soutenu, c'est des musiques qu'on peut dire à bourdon, mais qui travaillent en fait sur un étirement dans le temps d'un son en fait, en travaillant à la fois sur le spectre et aussi beaucoup avec, avec l'espace en fait, parce que du coup l'espace architectural entre énormément en jeu dans ce type de pratique là, ce type de musique là.
Toi, Jacques, maintenant, d'évoquer peut-être ton parcours. Est-ce que tu as ce double cheminement ou est-ce que tu viens essentiellement de la musique traditionnelle et peu à peu, tu t'es orienté?
Alors moi, je viens vraiment plutôt des musiques traditionnelles, oui. En fait. Et c'est vraiment par la rencontre, du coup, notamment avec Yann et avec les autres membres du groupe Todd, justement, avec Pierre-Massin Guillem, que j'ai découvert d'autres horizons musicaux aussi et d'autres manières de faire la musique et d'autres paramètres sonores, en fait, qu'on pouvait peut-être mettre en jeu, en fait. Donc il y a eu vraiment cette rencontre-là, rencontre qui a été concomitante, notamment avec un projet qu'on avait mené du coup avec Basile Brémeau et Yann, autour d'un objet vinyle en fait, où il y avait aussi la dimension temporelle qui rentrait en jeu, à étirer des pièces de musique traditionnelle, donc des bourrées qui généralement sont jouées en 3-4 minutes. Là, il a fallu les étirer sur 20-25 minutes, et donc avec tout ce que ça mettait en jeu en fait, même de manière sonore en fait.
Vous jouez souvent dans des églises, comme ce soir ? C'est quand même une grande église. La voûte est très très haute. Comment est-ce que vous le sentez, ce lieu ?
Le lieu, c'est Yann parlait de, voilà, de l'espace architectural qui donne aussi une identité et une qualité au son. Ce soir, ça va donner une identité au son, et ce qui est important, c'est que nous, on gère pas toute cette identité-là. C'est-à-dire que le lieu dans lequel on est, c'est lui qui va aussi donner, qui va marquer, qui va colorer, en fait, qui va colorer la soirée, forcément, et notre musique.
C'est, si je peux rebondir là-dessus, c'est que c'est aussi un paramètre un peu essentiel dans ces musiques de ton soutenu, justement, qui est d'une forme de perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on génère un processus, un motif, quelque chose qui va mettre en vibration un espace, et cet espace-là lui-même va nous renvoyer des choses, et on rentre dans une forme de feedback qui, en tant que musicien, finalement, au bout d'un moment, on perd aussi un peu le contrôle de ça, et c'est ce qui nous intéresse dans ces musiques de ton soutenu.
À 5h30 du matin, les murs de l'église Saint-Merry à Paris ont vibré avec les musiques du collectif La Novia, invité le 24 septembre dernier par le festival Crac
pour une nuit de noces en 9 concerts au programme. La musique du duo Verdouble, de Faune, de Géricault, de la Baracande, de Taude, de Flux et enfin celle du duo des Violonneuses. Sans oublier, vers 1h du matin, une grande séquence de bals avec des musiques de différentes régions de France. Alors cette nuit-là, le public évidemment s'est enivré de vibrations. Et de son tenu, le public a dansé, il s'est balancé ou il est resté les yeux clos, traversé par les vibrations des instruments. Certains sont venus de loin pour participer à cette nuit de noces. Qu'est-ce qui vous a incité à vous déplacer ce soir ?
Nous, je suis avec un ami, on est venu de Toulouse, parce qu'on connaît le collectif La Nogue et qu'on aime beaucoup ce qu'ils font, enfin, on est intéressé par les musiques qu'ils font, on est tous les deux dans les musiques traditionnelles. Et voilà, on apprécie leur travail. Du coup, c'était l'occasion de voir tous les groupes, enfin, un maximum de groupes dans une soirée comme ça. Et le fait que ça soit dans un lieu comme une église, ouais, ça nous a interpellés, ça nous a plu.
Vous êtes musicienne vous-même ?
Ouais.
Vous jouez de quoi ?
Je joue du banjo, du fifre et différentes flûtes traditionnelles. Et puis des musiques brésiliennes aussi, où je joue d'autres instruments là, du coup.
Et vous tentez également, comme La Nove, de les intégrer à de la musique plus expérimentale ?
Pas encore. Là, je suis plus dans une démarche d'immersion dans ces musiques-là. J'essaie de les apprendre déjà, basé sur les collectages, d'écouter et tout. Après, j'adore les groupes qui font ça, mais je pense que je suis pas à ce stade-là, en tout cas, à manipuler ces musiques-là encore.
Thank you.
Et les recherches du collectif, je vous recommande la géniale émission de Clément Lebrun sur ce sujet, Le cri du patchwork du 4 octobre dernier. Le festival Crac 5e édition, une mosaïque sonore réalisée grâce à la complicité de Camille Lézé, preneur de son de la Muse en circuit, et de Nicolas Mathias, notre technicien reporter. Dans notre studio ce soir, pour donner forme à tout cela, Françoise Cordé, Pierre Monteil et Soizic Noël. Il est minuit, je reste encore avec vous quelques minutes puisque c'est l'heure de notre miniature à l'abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.